Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Pascal Massirika.
À la une de l'actualité ce midi, 46 pygmées tués, c'est le bilan de l'attaque perpétrée la nuit dernière sur le village d'Abembi par des rebelles ougandais de l'ADF en territoire d'Irumu, province de l'Ituri. Un dispositif policier a été observé cet avant-midi à Lubumbashi pour dissuader ceux qui ont projeté une marche pour réclamer l'indépendance du Katanga. Aux dernières nouvelles, la situation est calme dans la ville. Notre invité, c'est le directeur général de la DGDA, Nkongolo Kabila, assure que le prix de la douane n'a pas changé et rappelle en même temps aux usagers les dispositions en vigueur dans la fixation de la taxe des marchandises à l'importation. Madame, messieurs, bonjour. En Ituri, le bilan de l'attaque d'hommes armés la nuit dernière au village d'Abembi, en territoire d'Irumu, est revu à la hausse. Selon le ministre provincial de l'Intérieur et d'autres sources concordantes, 46 pygmées ont été abattus dans la forêt de la chefferie de Walese-Vonkutu. Le gouvernement provincial a attribué ce carnage aux présumés rebelles ougandais de l'ADF et dit avoir dépêché ce vendredi une équipe sur les lieux du drame pour des investigations. À Bounia, Martial Kizabiamungu.
C'est le jeudi dans la journée que la nouvelle de massacre de ces personnes a été rendue publique dans la zone. Selon le député provincial originaire de cette entité, David Afitandi, des hommes minus, des machettes et des fusils ont fait incursion au village Abembi, situé au milieu de la forêt, à la limite avec la chefferie de Banyali Tchabi. Les victimes, composées essentiellement des femmes et des enfants, ont été surprises dans leur campement pendant que les hommes étaient encore à la chasse. Il y a eu deux rescapés blessés lors de l'attaque qui ont rapporté la nouvelle aux autorités. David Afitandi.
Ça demande la mobilisation collective pour aller atterrir les caracicos, sa vie qui est après de pourrir à l'extérieur.
Contacté ce vendredi matin, le ministre provincial de l'Intérieur, Adjio Guidi, confirme ces massacres. Adjio Guidi.
Nous avons instruit l'AT avec son comité local. Ce matin, ils vont quitter, aller sur les lieux pour constater les faits et puis procéder à l'enterrement digne de nos pygmées qui ont été massacrés par ces derniers.
Notons que c'est le premier bilan lourd des massacres de civils à l'Ituri depuis le début de cette année 2021. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
On reste en Ituri où les combats se poursuivent ce vendredi entre les FRDC et une faction de la milice Codeco vers le Mont Bleu à une dizaine de kilomètres au sud de Bounia. Selon des sources sécuritaires locales, le bilan serait lourd du côté des miliciens dont certains corps sont ramassés sur les champs de bataille. De leur côté, les autorités coutumières déplorent le déplacement massif de la population. Plus de 10 villages sont vidés de leurs habitants. Pour en parler, retrouvons à Bounia Isaac Remoyope.
Des détonations d'armes sont entendues depuis jeudi matin dans les localités situées proches des zones de combat. Ce vendredi matin, des affrontements ont repris entre les deux parties vers les escarpements de Mont Bleu, affirment certaines sources de sécurité. Les FARDC ont repoussé ces groupes armés qui a tenté hier de récupérer ses anciennes positions à Ezekere, à une dizaine de kilomètres de Bounia. Au moins une dizaine de miliciens seraient tués pendant les affrontements, précise la même source. Un chef local ajoute que des civils ont également perdu la vie pendant les combats. Ce vendredi matin, ces miliciens qui sont à débandade se sont réorganisés pour venir pour récupérer le corps de leurs compagnons. Ils ont été mis en déroute. Le porte-parole des FARDC en Ituri a déclaré que le bilan officiel n'est pas encore disponible car les opérations sont en cours. Ces combats ont entraîné le déplacement de la population dans au moins 10 villages. Il s'agit des Zaba, Kavelega 1 et 2, Gulukwa, Gutaki en secteur de Walindu Tati et Bogor en secteur de Baïma Sid. Ces personnes ont fui notamment à Bounia, Kasegne au bord de la Calbert et vers Lagabo en chef de Walindu Bindi. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Non loin de là, au nord Kivu, les FARDC ont déjoué une attaque des rebelles ougandais de l'ADF à Mwenda, une localité du secteur de Rwenzori dans le territoire de Beni. Ce vendredi matin, la population protégée par l'armée dans son camp a regagné le village pour poursuivre ses activités. Le point de la situation à Beni avec vous, Marc Maro Fimbo, nous y reviendrons. Un dispositif policier a été observé cet avant-midi à différents endroits de Lubumbashi, d'après plusieurs sources. L'objectif est de dissuader ceux qui projetaient une marche pour réclamer l'indépendance du Katanga. Ce même dispositif a été également constaté dans la ville frontalière de Kasumbalesa. À Lubumbashi comme à Kasumbalesa, la situation est calme et toutes les activités se déroulent normalement. Radio Kapi Lubumbashi, Jean Gandou.
Ces policiers étaient visibles notamment au rond-point Carrefour, sous la route Kassapa, au siège de l'Assemblée provinciale, sur Square Georges-Arthur Forest et même ce matin à la hauteur du pont Chondo. D'après plusieurs sources, une marche était prévue par un groupe de personnes se réclamant de ceux qui demandent l'indépendance du Katanga. Leurs identités n'ont pas été révélées. Des tracts ont été jetés annonçant cet événement. Informée, la police a pris toutes les dispositions pour étouffer cette entreprise. Encore qu'aucune manifestation n'a été autorisée par les autorités en cette période où les rassemblements sont interdits à cause du coronavirus. Toujours à ce sujet, le président national de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, Antoine Gabriel Kungwa Kumwanza, a au cours d'une conférence de presse animée ce jeudi dans sa résidence, dénoncé cette démarche et surtout ceux qui en sont les instigateurs qui veulent tout simplement semer les troubles. Pour lui, l'heure n'est plus à ce genre d'aventure, mais plutôt à la consolidation de la paix.
Je vous ai appelé pour agiter la sonnette d'alarme comme parent, comme fils du Katanga. Je dénonce. Au moment où je vous parle, la ville de Lubumbashi est encerclée par des jeunes drogués et qui cherchent à proclamer l'indépendance du Katanga. C'est pas du mensonge, j'ai tous les rapports. Nous ne sommes pas distraits.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Retournons au Nord Kivu où le campement des FRDC à Kikovu dans le territoire de Lubero a été incendié jeudi soir par des habitants lors d'une journée sans activité décrétée par la société civile locale. À cette occasion, les manifestants voulaient exiger le départ de Edgar Paluku Kasombole, fonctionnaire délégué du gouverneur de la région. À Butembo, une correspondance de Florida Kahambu.
Tout est parti d'une correspondance de la société civile adressée à l'administrateur de Lubero le mercredi. Dans ses documents, cette structure citoyenne a annoncé 3 journées ville morte à partir du jeudi. Un mot d'ordre qui a été respecté par les habitants de Kikuvo. Cependant, un groupe de jeunes aurait profité de cette paralysie d'activité pour provoquer les militaires, affirme Kandou Lamoussavouli, président de la société civile. C'est ainsi que des militaires FARDC auraient répondu par des tirs de sommation, ajoute la même source. Quelques heures plus tard, le campement des militaires a été incendié par des personnes non identifiées, rapporte le président de la société civile. L'administrateur du territoire de Lubero, qui déplore cet acte, rapporte que les auteurs de l'incendie ont profité de l'absence des militaires qui sont partis sécuriser les fonctionnaires délégués dans sa résidence. Richard Niembo pense qu'il s'agirait d'un problème personnel entre les présidents de la société civile et les fonctionnaires délégués. Ce que ne reconnaît pas Kandou Lamoussavouli, président de la société civile. À la suite de cette situation, l'administrateur de Lubero a convoqué les deux parties à son bureau afin de trouver une solution palliative. Butembo, Florida Kahambu, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, l'auditeur général des FARDC est décédé ce vendredi en Afrique du Sud. Selon une source du parquet militaire, le lieutenant général Tim Monkutu avait contracté le coronavirus. Ces deux dernières années, ses hauts gradés des FARDC s'étaient particulièrement impliqués pour soutenir l'accusation dans le procès des personnes accusées du meurtre des deux experts des Nations Unies au Kasaï en 2017. Un reportage de Joël Bofengo, rendu par Julien Nyamouni.
Le lieutenant général Monkutu a été nommé auditeur général de l'armée en 2018 avant d'être reconduit à ses postes en février 2020 par le président Tshisekedi. Avant d'accéder aux fonctions d'auditeur général, il a été premier avocat général des FARDC. Cependant qu'il occupait ce poste, qu'il a soutenu l'accusation dans le procès des ADF à Beni. Nommé auditeur général, le général Monkutu s'était personnellement occupé de l'accusation dans le procès de présumés meurtriers des experts de l'ONU au Kasaï. Il effectuait régulièrement des séjours à Kananga où il a représenté le ministère public lors de nombreuses audiences devant le tribunal et la cour militaire. Au cours d'une interview accordée à Radio Okapi en avril 2019, Le général Tim Mokoto avait promis aux familles Zaïda Catalan et Michael Sharp la mobilisation, la mise en œuvre de tous les moyens humains techniques pour que le voile soit levé sur le drame. Il avait également promis que le dossier des quatre accompagnateurs congolais serait également envoyé devant les juges. Le lieutenant-général Mokoto était également professeur d'université. Il a notamment enseigné le droit pénal militaire à plusieurs générations d'étudiants de la faculté de droit de l'université de Kinshasa.
Merci Julien Nyamwenyi Monashango pour ces précisions. Santé à présent. Le Sud Kivu a connu jusqu'à ce jour 449 cas de coronavirus, dont 36 actifs en traitement, 361 guéris et 52 morts, selon le rapport dressé à Bukavu par le ministre provincial de la Santé. Cosmos Moussimoa Bichicha affirme que la ville de Bukavu constitue l'épicentre de cette pandémie dans la province. La seule zone de santé d'Ibanda compte à elle seule 316 cas confirmés, soit plus de trois quarts des cas cumulés de coronavirus. Il insiste sur le respect des mesures barrières et rappelle l'existence de la Caisse de solidarité pour le coronavirus. Il est au micro de Rachel Kiesembangou.
La semaine du 4 au 10, nous avons enregistré 24 cas confirmés de la COVID. Pendant la même semaine, nous avons perdu un compatriote. Nous avons une nouvelle zone de santé touchée par la COVID. Cette semaine du 11, nous avons déjà enregistré 4 nouveaux cas confirmés, ce qui nous ramène à ces jours à 449 cas confirmés dans la province du Sud Kivu. Sur le 449 cas confirmés, nous avons encore 36 cas actifs, donc malades et sous traitement à ces jours. Nous avons 361 guéris. Maintenant, nous avons un cumul de 52 compatriotes qu'on a perdus depuis le début de la pandémie. L'épicentre de la COVID reste la ville de Bukavu, la zone de santé d'Ibanda, qui elle-même compte 316 cas confirmés sur les 449 cas pour toute la province du Sud Kivu. La Caisse de solidarité, elle est opérationnelle. Elle a déjà reçu les contributions de certains compatriotes.
Santé encore, le port de masque pour se mettre à l'abri du coronavirus n'est plus systématique et a tendance à devenir facultatif dans la ville de Goma au Nord Kivu. Cette mesure du gouvernement connaît un relâchement ces jours-ci dans tous les secteurs vitaux. Dans les marchés et les transports en commun, les usagers s'en passent. Gabriel Ouamenia a fait le tour de la ville de Goma. Voici son reportage.
Notre ronde a eu comme point de départ le marché central de Virunga, suivi de Birere où il y a une forte concentration de la population. Là, les vendeurs, grossistes, négociants, détaillants et boutiquiers, ainsi que toute autre catégorie de commerçants, ne s'en doutent pas du danger qu'ils courent et de l'existence de la maladie. La plupart ne croient pas au Covid-19. Ils estiment que la pandémie n'est qu'une utopie. C'est comme l'a dit ici cet habitant.
Moi, comme habitant de Goma, et peut-être la majorité que j'observe qui ne portent pas les masques. C'est vrai, la plupart des radios parlent au Covid, mais sur le terrain, nous ne sommes pas convaincus. C'est pourquoi nous négligeons. C'est un sabotage par rapport aux masques.
La plupart des personnes que nous avons rencontrées dans les marchés centraux de Virunga ne portaient pas de cache-nez. C'est un relâchement total. Ici, l'administrateur gérant du marché de Virunga ne cache pas son inquiétude à ce sujet. Masumbuko Sinzahera.
La population ne croit pas à cette pandémie. C'est pas pourquoi. Je pense que c'est la même situation que nous avons vécu avec l'Ebola et moi j'y crois et j'essaie de me protéger. Quant aux autres, ils sont incrédules. Pourquoi incrédules, je ne sais pas.
Rappelons que cette situation est similaire dans d'autres points chauds de la ville de Goma. Gabriel Ouamenia, Goma, Radio Capi.
Le député national Jean-Pierre Anokonzi s'est dit vivement préoccupé par la crise économique provoquée dans les territoires de Faradje et de Ouattia suite à la destruction du pont sur la rivière Nzoro reliant ces deux territoires de la province du Haut-Ouélé. C'est confiant à la presse hier jeudi. Ici à Kinshasa, l'élu de Faradje félicite le gouverneur Christophe Nanga Bassiané d'avoir pris l'initiative de réhabiliter ce pont et lui demande d'accélérer les travaux. Depuis la destruction de ce pont, le 6 janvier, la route nationale 26 est coupée en deux et plus d'une centaine de camions sont bloqués de part et d'autre de la route. Conséquence, deux décès par noyade et une forte crise alimentaire et économique sont déplorés, ajoute le député Anokonzi. Il est au micro de Michel Kifinangoy.
Nous saluons d'abord l'initiative qu'a prise notre gouverneur de la province, M. Nanga Bassiane, pour aider sa population de pouvoir marcher sur un bon pont. Je crois que depuis que le pont a été détruit à date de 6 janvier 2021 jusqu'à nos jours, il se pose un problème maintenant d'arrangement. Comme ça a été dit à la traité qu'on avait eu avec lui, il me disait que honorable, on va détruire le pont et d'ici peu de temps, on va l'arranger, disons, dans quelques jours. Mais curieusement, jusqu'à nos jours, ça fait presque 10 jours, la population est en train de souffrir. Aujourd'hui, si vous arrivez à ces lieux-là des ponts, vous trouverez qu'il y a plus de centaines de camions. Et à plus, la population était dans l'obligation pour certains de traverser la rivière par nage. Et c'est ce qui a occasionné le cas de décès de 2 personnes. Ce que nous attendons du gouverneur, c'est de pouvoir poursuivre avec accélération l'initiative qu'il a prise pour aider la population de sa province.
Actualité internationale.
À 6 jours de l'investiture de Joe Biden, Washington est déjà soumis à un dispositif de sécurité sans précédent. La capitale fédérale est quasiment en état de siège. Toutes les artères du centre-ville de Washington sont interdites à la circulation. Des blocs de béton ont été posés au milieu des avenues et des barrières de métal érigées autour de la Maison-Blanche et du Congrès. Seuls les véhicules de la police ou les engins qui installent quotidiennement les barrières de sécurité circule. Le Premier ministre français Jean Castex a annoncé jeudi après-midi l'instauration d'un couvre-feu pour au moins 15 jours à 18h à partir de demain samedi. Les autorités françaises espèrent mieux maîtriser ainsi le coronavirus et éviter de plus en plus une propagation rapide des variants anglais et sud-africains. Et puis, les enquêteurs indonésiens ont annoncé ce vendredi matin avoir pu extraire les enregistrements de l'une des boîtes noire du Boeing qui s'est abîmé en mer avec 62 passagers à bord. Le responsable du comité de sécurité des transports qui annonce la nouvelle affirme que les enregistrements qui sont en bon état seront examinés au plus vite pour élucider les circonstances de l'accident.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur général de la DGDA, Kongolo Kabila, parle du prix de la douane qui n'a pas changé et rappelle en même temps aux usagers de la douane les dispositions qui sont actuellement d'application dans la taxation des marchandises à l'importation. Il s'entretient avec Jir Longembo.
Monsieur Kongolo Kabila, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de la DGDA. La douane congolaise a toujours été taxée la plus chère au monde. Pourquoi vous avez décidé en ce moment d'augmenter les droits des douanes dans tous vos bureaux de douane?
Bien, ça me fait rire, M. J.R. Je n'ai pas le droit d'augmenter les droits de douane. Les droits et taxes perçus par la Direction générale des douanes et accises procèdent de la loi. Et donc, on ne peut pas augmenter les droits et taxes. Là, vous voulez peut-être parler de ce qui s'est passé à l'aéroport international d'Indy. En fait, il s'agit évidemment de ceux qui ne payaient pas réellement les droits et taxes de douane. Correct. La taxation douanière est dite chez nous ad valorem, c'est-à-dire basée sur la valeur de la marchandise. C'est-à-dire que lorsque vous amenez la marchandise, vous devez amener tous les documents qui ont accompagné cette marchandise. La facture d'achat, les frais, c'est-à-dire le montant que vous avez payé pour les frais, mais aussi tous les autres frais qui pourraient accompagner que la marchandise puisse arriver. Nous avons vu par exemple l'entreprise CAPEM qui s'adresse à sa clientèle et qui dit qu'il y a eu augmentation des droits de douane à 50%. Nous disons c'est faux, il n'y a pas d'augmentation des droits de douane. Dans ce cas-là, nous invitons l'entreprise CAPEM de pouvoir venir nous voir avec les documents liés à l'importation de sa marchandise. Nous allons lui montrer comment cela se passe, de façon qu'elle puisse payer correctement les droits de douane. Ça me fait rire. Partout dans le monde, nous sommes parmi les plus faibles quand il s'agit des taux de droits de douane à l'importation. Nous n'avons pas augmenté les droits de douane, c'est-à-dire ceux qui ne payaient pas correctement ont commencé à payer correctement.
Semble-t-il que tout est parti de votre note de service de janvier 2019 adressée aux usagers et de douane où vous annoncez quelques dispositions. Qu'en est-il?
Oui, justement, c'était déjà en 2019, au mois de janvier, que nous avions pu remarquer qu'il y avait des marchands, des usagers qui amenaient des gros tonnages de marchandises et qui ne faisaient pas passer par la douane pour qu'elle soit payée, pour qu'elle soit taxée et que l'argent perçu puisse entrer dans le compte du trésor public. C'est ainsi que nous avions pris une note de service aux usagers de la douane tous et pour ce qui concerne les excédents des bagages, qu'on appelle communément là-bas MCO et d'autres ou bien cargo bagages. Et nous avions demandé à tous les usagers de pouvoir se conformer à certaines dispositions et que désormais, là, excepter les bagages qui accompagnent les voyageurs qui seront acheminés à l'aérogare modulaire pour y subir un contrôle douanier et même sécuritaire, toute autre marchandise importée sous le label MCO et cargo bag devrait être acheminée à l'entrée.
Donc ce n'est qu'un rappel.
Ce n'était qu'un rappel. Et nous avions même dit que la succursale du guichet unique de la DGDA Kinahero, située à l'actuel bâtiment d'arrivée de Sous, n'était plus opérationnelle pour les formalités douanières. Et là, nous avions dit que les transporteurs et leurs assistants au sort sont tenus de dissocier à l'embarque et à l'arrivée les bagages accompagnés des voyageurs et ceux destinés à l'entrepôt conformément au point 1, c'est-à-dire conformément aux dispositions que nous avons prises. La taxation en ligne est devenue une mode d'opération qui suppose que la personne se trouve ici, une autre se trouve de l'autre côté, mais en fait, à ce moment-là, il s'envoie de l'argent par voie électronique et la marchandise arrive. Et si cette marchandise arrive et qu'elle n'a pas de facture, elle n'a pas de documents qui puissent permettre la véritable évaluation, il faut que la marchandise s'accompagne de tous ces documents-là. Bien sûr que le commerce électronique, c'est un domaine qui est actuellement le plus exploité. Et ces marchandises, quand elles viennent, elles doivent être vérifiées. On doit connaître quelle est la nature de cette marchandise, quelle est la valeur de cette marchandise, comment elle a été amenée. Est-ce par avion, par mer, de façon à pouvoir appliquer les droits
de douane. Et ceux qui se trouvent victimes de surtaxation, quelle démarche doit-il faire?
Surtaxation, ça veut dire quoi? Donc, dire que ça a été surtaxé, bon, en fait, à ce moment-là, ils peuvent toujours introduire un recours. Oui, le problème, si on trouve que ça a été surtaxé. Mais je vous dis que pour taxer la marchandise, on tient compte de la valeur de la marchandise, c'est-à-dire des documents qui ont accompagné la marchandise. Ces documents doivent être des documents originaux, malheureusement. Alors qu'il y a des documents originaux qui existent, ils utilisent des documents falsifiés, photocopiés falsifiés, nous en avons des preuves. Voilà pourquoi nous avons exigé que les documents qui doivent être présentés soient des documents authentiques qui permettent que la douane puisse obtenir les renseignements nécessaires qui lui permettront de pouvoir taxer correctement la marchandise en vue de renflouer la caisse du trésor.
Monsieur Kongolo Kabila, merci.
Merci.
Monsieur Kongolo Kabila est le directeur général de la Direction générale des douanes et accises des GDA. Il était l'invité de Radio Okapi, interrogé par Jir Lungembo, et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté. Merci infiniment à Richard Junior Kamunga qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Julien Nyamouni Mwanachango.